les performances du métro sur pneus se révèlent nettement supérieures à celles du métro classique.
Madame, monsieur, bonsoir. La première classe dans le métro, trois bonnes raisons pour la supprimer et la classer au rayon souvenir.
Cette mise en service de Météor est un véritable événement. C'est la première ligne de métro créée depuis 1935.
Train de vie sur RCN, Martin.
Bonjour à tous. Heureux de vous retrouver aujourd'hui dans ce quatrième épisode de Train de vie. Le 10 août 1903, le réseau en est encore à ses toutes premières années d'exploitation. 3 ans à peine. Et c'est en ce 10 août 1903 que le pire incident du métro parisien de son histoire s'est déroulé. L'incendie des couronnes. Et c'est de cela dont on va parler aujourd'hui. Revenons en arrière en cette soirée du 10 août 1903. L'accident se passe sur la ligne 2, station Couronne au nord-est de Paris. Pour bien la situer dans Paris, la ligne 2 fait un demi-cercle partant de la Porte Dauphine à l'ouest pour rejoindre Nation, en passant par le nord de Paris. La ligne 2 est ouverte dans son intégralité depuis à peine 4 mois et le réseau en est en pleine expansion. Les lignes sont ouvertes au plus vite pour pouvoir décharger les rues de la capitale. À cette époque, les travaux de construction sont faits très rapidement et les consignes de sécurité ne sont pas du tout au point. Et avec un peu de malchance, un malheureux concours de circonstances va conduire à la mort de 84 personnes. Il est environ 18h et une rame arrive sur la petite portion aérienne de la ligne 2. En arrivant à la station Boulevard Barbès, le feu se déclare dans le wagon de tête au niveau du frotteur. Qu'est-ce que le frotteur, vous allez me dire ? Il faut savoir que le métro n'est pas alimenté par un caténaire, un fil qui passe au-dessus du train comme les TGV ou les TER, mais par un troisième rail qui transporte le courant. Et la pièce du train qui entre en contact avec ce troisième rail tout le long du parcours est ce qu'on appelle le frotteur. Ce frotteur donc prend feu quand la rame est à l'arrêt et est éteint avec un extincteur. La rame repart pour les stations suivantes et à chaque fois c'est la même chose. Quand la rame est à l'arrêt, le frotteur dégage de la fumée. À chaque fois le feu est éteint et la rame repart avec beaucoup de voyageurs qu'elle a pris du retard sur son parcours en raison d'incidents. Le train quitte la section aérienne pour aller en souterrain pour le reste de la ligne. Lorsqu'il arrive à la station Couronne, le feu reprend de plus belle et les agents du métro n'arrivent pas à maîtriser le feu cette fois-ci. Les parois du train prennent feu et la fumée commence à envahir la station. L'ordre d'évacuation est enfin donné, mais comme les voyageurs avaient vu quelques stations avant que le feu était éteint à chaque fois, ils se sont pas pressés vers la sortie. Et ceux qui voulaient bien descendre du train allèrent même demander un remboursement de leur ticket. Quelques minutes après, les lumières s'éteignent. En fait, ce qui fait office de disjoncteur pour toutes les lumières de la station est situé à proximité de la rame en feu. Le disjoncteur prend donc feu et toutes les lumières s'éteignent. C'est seulement à partir de là que la panique se fait sentir dans la station et les voyageurs tentent alors de sortir de là. Mais sans lumière et avec une fumée monstre, ce n'est pas évident. Les gens avancent donc le long du quai pour trouver l'escalier de sortie qui se situe à une des deux extrémités du quai. Malheureusement, beaucoup de gens se trompent de sens dans la pénombre et arrivent à l'extrémité du quai sans issue. C'est là que seront découverts quasiment la totalité des victimes, mortes par asphyxie. Et il faudra une journée aux pompiers pour descendre dans les stations, car il y fait extrêmement chaud. Cet accident a fait la une des journaux pendant plusieurs jours. La rumeur quelques années avant sur la dangerosité du métro reprenne de plus belle. Résultat, le trafic diminua de 40% jusqu'à la fin de l'année 1903. Alors quelles leçons a-t-on tiré de cette catastrophe ? Après ce dramatique incendie, des mesures sont prises par la CMP, la compagnie du métropolitain de Paris, pour éviter à l'avenir ce genre d'accident. Tout d'abord, il a été décidé de mettre en place un éclairage de secours indépendant du reste de l'éclairage et de mettre en sécurité les disjoncteurs. Deuxième mesure, des sorties de secours sont mises en place avec l'obligation pour les nouvelles stations de mettre deux accès aux deux extrémités du quai pour éviter de se retrouver bloqué. Troisième mesure, le désenfumage des stations est mis en place dans toutes les stations du réseau, ainsi que dans les tunnels. Des bornes à incendie sont installées dans toutes les stations du réseau. Enfin, les rames en bois seront vite remplacées par des rames métalliques pour éviter qu'elles ne s'enflamment aussi vite. Finalement, il aura fallu 84 morts pour que des mesures de sécurité évidentes aujourd'hui soient mises en place dans le métro parisien et dans les autres transports. D'ailleurs, aucun accident comme celui de la station Couronne en 1903 n'est arrivé depuis. En 2005, une rame avait légèrement pris feu sur la ligne 4 et toutes les mesures mises en place ont permis d'évacuer la station en moins de 2 minutes. On peut, je pense, aujourd'hui considérer qu'un tel accident a très très peu de chances de se réaliser. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Train de vie s'achève. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour parler des exploitants du métro parisien, la guerre entre la CMP et le Nord-Sud, la RATP et la future mise à la concurrence du réseau. Quels changements ? Nous le verrons. Cette chronique ainsi que les précédentes sont disponibles en podcast sur rcn-radio.org. Et moi je vous dis à bientôt dans le métro.